hystérique.
Ça vous fait sourire?
Oui, ça me fait sourire parce que malheureusement, c'est comme ça qu'on traite un peu les femmes dès qu'elles osent dire ce qu'elles pensent.
Bonjour à toutes et à tous. Comme Manon, j'ai beau ne jamais avoir pris une trace de coke de ma vie, et encore moins là cet après-midi avant de présenter une émission, mais je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses concepts. J'aime cette émission, j'ai envie de le crier sur les toits, au mégaphone. Je sais qu'on a déjà dépassé les grosses têtes, qu'on est number one, mais parfois j'ai envie de monter sur cette table et de faire l'hélicobite pour dire à quel point, putain de merde, j'aime cette émission, j'aime Manon, j'aime Quentin, j'aime Cyril, bordel, je crois que même Pierre Courade, je l'aime. Et le plus beau, c'est que personne ne songera à me dire que j'y vais un peu fort aujourd'hui, que je suis hystérique, parce que vous savez quoi? Je n'ai pas d'utérus. Mais si Manon, si c'est Manon qui a fait ce lancement, elle y aurait certainement eu droit, même en 2026. Certains auraient dit, bah mon vieux, elle est complètement hystérique celle-là. Alors que moi, on pense juste, dis donc, belle énergie aujourd'hui, le présentateur de Zoom Zoom Zen, un enthousiasme communicatif. Oui, longtemps, non seulement l'idée d'hystérie a été associée quasi exclusivement aux femmes, mais elle était surtout considérée comme une maladie. Alors d'où vient cette notion d'hystérie? Comment le terme s'est-il forgé? Pourquoi est-il longtemps resté très utile pour le patriarcat? Comment surtout aujourd'hui encore il continue de faire des ravages? Le temps de descendre de la table et de remonter ma braguette. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Glamour.
Vous avez l'artère carotide toute gonflée là. Ça
c'est
vous a.
Ouais. C'est tout rouge.
Mais c'est vrai ou vous dites ça pour faire une blague? Parce que ça m'inquiète, vous savez que je suis hypochondriac.
Ah oui,
je suis capable de quitter l'émission et d'aller immédiatement à l'infirmerie vérifier ce qui se passe.
Non, tout va bien, toi.
Merci. Bonjour Pauline Chenu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Vous êtes journaliste, documentariste. Vous avez notamment réalisé des séries radiophoniques pour France Culture, Féminicide, la guerre mondiale contre les femmes ou encore Les fantômes de l'hystérie, histoire d'une parole confisquée et un podcast dont vous avez tiré un livre que j'ai entre les mains. Cet après-midi, Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes, paru dans la collection Cahiers Libres des éditions de La Découverte, un livre passionnant dans lequel vous racontez l'histoire de cette invention, l'hystérie. Vous allez nous expliquer tout ça, juste le temps de saluer mes fidèles complices, deux artistes polyvalents qu'il serait réducteur de présenter comme des journalistes, sachant qu'ils sont aussi de formidables comédiens, comme vous avez pu le découvrir émerveillé dans ce bijou d'acting que constitue notre auto-promo pour la Déloque de vendredi à Rouen.
Bah oui, parce qu'il revient sur ses terres, la Normandie.
Marguerite, c'est toi.
Mieux qu'une vulgaire autopromo, une nouvelle masterclass. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Franchement, c'est mieux que la première quand même.
C'est difficile d'être moins
d'être pire,
bien que la
oui.
première.
Est-ce que c'est aussi bien que Marseille?
Ah non, je préférais Marseille. Oh, bonne et mère.
Elle le refait.
C'est gratuit.
Elle nous le refait. C'était déjà gratuit à l'époque, Manon. Hein. Vous n'avez pas facturé cette prestation à Radio France.
Mais ce qui est fou, c'est que la promo de Rouen est passée dans la matinale ce matin. Marguerite, c'est toi. Et j'ai reçu plein de messages.
C'est vrai. Sur votre notoriété a décollé.
Non, c'est la vôtre.
Plein de messages.
Très bien.
Des gens qui disaient.
4 ou 15?
15?
Ah oui.
Ouais, je pense, ouais.
On vérifiera.
Des gens de ma famille.
On vérifiera.
Plutôt.
Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Un livre, une plongée dans le passé où les femmes étaient considérées hystériques pour pas grand-chose et placées en hôpital psychiatrique avec l'aval de leur mari, bien évidemment.
Face à vous, Pauline, c'est à se demander pourquoi une telle hype autour de Pierre Ninet alors qu'il joue si bien l'émerveillement.
Marguerite, c'est toi.
Quentin, chaque après-midi.
Ah, blanc, comme ça,
c'est ouais,
non,
c'est dur.
C'est magnifique,
dur.
On imagine.
C'est beau.
Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre thème du jour.
Et autant vous dire qu'à mon arrivée sur le trottoir, la rue est devenue hystérique. Ah non, en fait, c'était vraiment Pierre Ninet, mais qui sortait d'un défilé de mode. Mais alors, que pense la rue? Bah oui, de ce mot en 2026, hystérique. Est-ce qu'on est hystérique ou pas? Vos réponses à 17h30 dans ce... Pas 17h30,
non,
avant 16h30.
À 17h30, ça sera votre autre chronique.
Ah ouais, parce que, on travaille trop.
Oui, mais vous cachetonnez, mon vieux. Ah ouais,
ce sera le micro-trottoir.
C'est la PQR, après.
Vous savez plus
c'est
où ça. Vous en êtes. France le ami. Corps des femmes a longtemps été un mystère, et pas seulement pour Quentin. Vers 16h30, nous partirons à la découverte de toutes ces croyances farfelues qui ont longtemps poursuivi les femmes, et vous découvrirez dans le Zoom Zoom test que la théorie de l'utérus baladeur liée à l'hystérie n'est pas le truc le plus débile qu'on ait imaginé. Juste avant 17h, nous serons rejoints par le complice BDSM de Quentin, avec qui il écume les soirées les plus underground de la capitale. Jesse nous dira ce qu'il pense des hystériques. Après 17h, restez avec nous. Macron côté coulisses, vous pouvez peut-être laisser la musique, c'est ce qu'on vous propose de découvrir avec notre invité, une journaliste qui est accréditée depuis 7 ans à l'Élysée maintenant. Mais on démarre donc avec ce mot qui a longtemps été un outil pour asservir les femmes, l'hystérie, hystérique. Pauline Chenu, quand on parle d'hystérie, il faut le dire, hein, on rapporte essentiellement ce terme aux femmes, pas vraiment aux hommes. Pour quelle raison ?
La première raison, et vous en avez parlé rapidement, c'est le fait que l'hystérie, à l'origine, ça vient du terme hystéra, utérus. Et donc, en fait, on estime que le mot hystérique a été inventé au 5e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, les médecins, dont Hippocrate, pour citer le plus connu, considéraient qu'en fait, quand les femmes n'avaient pas suffisamment de... recevaient pas suffisamment de semences masculines, de liqueur virile, parfois on lit également ce terme, en fait, leur utérus, donc leur matrice, pouvait se balader partout dans le corps à la recherche d'autres liquides, et donc pouvait monter jusqu'à l'estomac, jusqu'au foie, au diaphragme, et parfois même jusqu'au cerveau. Et donc, dès ce moment-là, en fait, on a une sorte de correspondance un peu étrange qui est faite entre l'utérus des femmes et leur cerveau, et l'un pourrait avoir une influence sur l'autre. Et en fait, moi, mon enquête montre que c'est encore un peu le cas aujourd'hui.
Encore le cas aujourd'hui, ça qui est stupéfiant. On va en parler durant cette heure avec vous, Pauline Chanu. Lui, il a beau avoir ses côtés rétrogrades, une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son féminisme. Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, a toujours été aux avant-postes du mouvement féministe et jamais de sa vie, il n'a qualifié une femme d'hystérique. De folle dingo, oui, mais jamais d'hystérique. Et à sa décharge, la folle dingo l'était vraiment.
Et là, je commence à le prendre et à lui sucer le derrière.
On l'embrasse. Cyril, racontez-nous, racontez-nous les hystériques, d'où ça sort?
Imaginez une dispute, le ton monte et soudain l'argument comme un couperet, mais calme-toi, t'es complètement hystérique. Aujourd'hui, c'est devenu une insulte pour disqualifier une femme, mais pendant des siècles, c'était un diagnostic médical très sérieux et qui pouvait conduire une femme tout droit vers l'asile. Étymologiquement, l'origine de la notion est très claire, on a commencé à le dire. Hystérie vient du grec hystera, qui signifie utérus, voilà qui est posé. C'est à l'Antiquité qu'apparaît la théorie de l'utérus baladeur, car oui, on imagine que l'utérus se balade dans le corps d'une femme, une saute d'humeur. C'est l'utérus qui se déplace dans le cerveau, évidemment.
Et de la Grèce antique, on arrive à Paris, au 19e siècle.
L'âge d'or de l'hystérie, si vous me permettez cette expression. Nous sommes à l'hôpital de la Salpêtrière, je vous présente le docteur Charcot. Tous les mardis, le tout Paris se presse pour voir ses leçons. C'est du théâtre médical et l'hystérie devient un fourre-tout pour parler de tout ce qui touche à la santé des femmes. Une femme qui refuse de se marier, hystérique. Elle veut voter, hystérique. Elle est trop libérée, hystérique. Ce n'est qu'en 1980 que l'hystérie a officiellement disparu des grandes classifications psychiatriques. Sans pour autant disparaître des conversations, elle devient maintenant un jugement moral. Alors d'où ça sort l'hystérie? Eh bien d'un besoin irrépressible des hommes de pathologiser le corps des femmes, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Pauline Chanu, Cyril nous disait que l'hystérie avait disparu du vocabulaire médical depuis les années 80. Vous vous dites que le mot est supposé avoir aussi disparu du vocabulaire juridique, c'est pas le cas?
En fait, les deux, elle est censée avoir disparu de tous les mots de vocabulaire, puisque aujourd'hui, on est tous et toutes d'accord, je pense, pour dire que c'est un terme qui est misogyne, que c'est une injure, que c'est même une blague qu'on peut faire, on peut même parfois s'auto-décréter hystérique. Et moi, c'était ça un peu le point de départ de mon enquête, c'était de me dire pourquoi, alors même qu'aujourd'hui c'est un peu une blague et que tout le monde trouve ça misogyne, pourquoi c'est quand même très efficace? Pourquoi quand une femme politique va sur un plateau télé et ensuite que son confrère lui oppose qu'elle est hystérique ou qu'il faut qu'elle se calme, néanmoins, ça va quand même la marquer au fer rouge un peu pour le restant de ses jours. On peut penser par exemple à Ségolène Royal. Voilà, donc j'avais un peu tout ça en tête. Et en réalité, quand j'ai commencé mon enquête, je pensais que l'hystérie n'était plus considérée comme une maladie. Et j'ai découvert en réalité que dans les hôpitaux, même aujourd'hui, aux urgences, dans les hôpitaux psychiatriques, en fait, les femmes pouvaient être encore diagnostiquées hystériques. Et ce sont que des femmes.
Que des femmes. Donc le faux diagnostic d'hystérie, il faut revenir là-dessus, c'est il est inventé au 19e siècle, il a été établi uniquement à partir des préjugés et uniquement basé sur la misogynie en fait.
Oui, en fait, ce qui est très particulier avec ce diagnostic depuis le début, c'est que c'est à la fois considéré comme une maladie et pas comme une maladie. En fait, dès le départ, les médecins considèrent que tous les symptômes potentiels que vont présenter des femmes comme, je sais pas, des maux de tête, des maux de ventre, le fait de tomber dans les pommes, le fait de convulser, le fait d'avoir des tremblements, tout ça, ça pourrait être de l'hystérie.
Donc il n'y a pas de définition précise?
Non, depuis le début, il n'y a pas de définition précise. Ce qui est, évidemment, c'est ça le truc de l'hystérie.
Tout et n'importe quoi, c'est qu'en fait, on peut écarter une femme de...
Oui, en fait,
le but, c'était de les mettre à l'écart, en fait.
Le but, c'était de les contrôler. En fait, le but, c'était de les assigner au foyer, à la reproduction, à rentrer dans le cadre, en fait. C'est ça, le but de l'hystérie depuis le départ. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que c'est encore le cas. En fait, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement grave, c'est que aujourd'hui, une femme peut aller dénoncer des violences conjugales et se retrouver dans un commissariat, et elle peut être la police, la justice peut reprendre les termes de l'agresseur et dire que en fait c'était une situation de légitime défense, que cette femme a été frappée, etc., recadrée, c'est parce que cet homme était face à une femme hystérique. Et en fait, ça paraît vraiment incroyable, mais on retrouve aujourd'hui dans les cours de justice, aujourd'hui, des experts psychologues, des experts psychiatres qui vont aller faire des expertises et tout, et dire cette femme présente des traits hystériques, des troubles de la personnalité hystérique, histrionique. Je parle aussi de comment le terme parfois glisse, mais veut dire exactement la même chose.
Histrionique, c'est quoi que ce dérivé ?
Et bien, histrionique, en fait, le terme apparaît au moment où l'hystérie est censée disparaître.
Ah, on substitue ce nouveau mot
Oui, mais ce qui est génial, c'est que quand on regarde la définition, par exemple, dans le dictionnaire de l'Académie de médecine, l'histrionisme est défini comme une personnalité hystérique.
D'accord.
Donc on voit bien qu'on n'efface rien du tout, et que, en fait, aujourd'hui, ce sont en grande majorité des femmes qui sont diagnostiquées d'un trouble de la personnalité histrionique. Et j'ai montré dans mon livre qu'en réalité, c'est très souvent des femmes qui viennent dénoncer des violences, qui ont été victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
C'est un terme qu'on pensait appartenir au passé, pourtant on continue de l'employer en 2026. Zoom sur l'hystérie, et plus particulièrement sur celle qu'on appelait les hystériques. On est toujours avec Pauline Chanu, journaliste qui vient de sortir une enquête passionnante sur le sujet. Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes. C'est aux éditions de La Découverte. Pauline, avant de revenir sur l'histoire de cette invention, vous prenez très vite l'exemple de Britney Spears dans le livre. Pour quelle raison il est important cet exemple ?
Parce que c'est un exemple extrêmement populaire, parce qu'elle est très proche, enfin cette histoire est très proche de nous dans le temps, parce que j'ai grandi avec Britney Spears et parce que moi ça m'a interrogée, le fait que moi, comme nous toutes et tous, on ne soit pas posé plus de questions sur les raisons pour lesquelles cette femme avait disparu, en tout cas qu'elle n'avait plus droit à la parole, qu'elle n'avait plus droit de contrôler sa carrière, son budget, mais même jusqu'à son corps en fait. Ce qu'elle raconte dans son autobiographie, que j'ai trouvé vraiment hyper intéressante, puisqu'elle a réussi enfin à sortir de la tutelle imposée par son père et de l'hôpital psychiatrique, parce que ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a aussi passé quelques temps en hôpital psychiatrique, elle a été sédatée, elle n'avait même pas le droit de contrôler son utérus pour le coup, puisqu'elle n'avait pas le droit de retirer son stérilet, c'était son père qui pouvait décider pour elle si elle pouvait le retirer ou non.
Et donc, pardon, ça, c'est la législation américaine de l'État où est Britney Spears, ou c'est où on retrouve ça ailleurs ? Par exemple, chez nous. C'est pas possible, ça, chez nous, en France, qu'un père se retrouve dans cette situation.
Ah ben, je pense que si. C'est ce que je vous disais là pendant la pause, c'est qu'en fait, on n'a pas de statistiques aujourd'hui sur qui interne qui en France. On a très peu de statistiques, en fait, sur la psychiatrie. On commence à en avoir un peu, mais ça qui est très compliqué, c'est d'avoir des statistiques en termes de genre, puisqu'on n'en a pas. Donc, on a des micro-enquêtes, et je me suis basée là-dessus, enfin, des enquêtes de sociologues. Mais si, bien sûr, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai rencontré des femmes qui avaient été internées par leur mari et par leur père avec l'aide de leur mari. Enfin, c'est ça qui est incroyable dans cette histoire de l'hystérie, c'est qu'on retrouve souvent des sortes d'accords entre les médecins, les pères
et entre hommes.
C'est vraiment une histoire qui se joue entre hommes. Vous disiez qu'on allait parler d'invention. En réalité, voilà, toute mon enquête, c'est de montrer que l'hystérie, c'est une fiction qui est sans cesse re-raconté, renforcé de siècle en siècle par des hommes qui trouvent toujours d'autres moyens de faire rentrer, puisqu'elle n'a pas de définition, ils trouvent toujours d'autres choses. Pourquoi ?
Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on peut plus se baser sur des arguments médicaux. Au 19e, la médecine croyait en ça, donc il y avait des livres, j'imagine que c'était enseigné, l'hystérie. Là, aujourd'hui, aucun médecin ne peut signer un document en disant que telle personne est hystérique.
Et bien, en fait, si, moi j'ai rencontré donc plusieurs femmes. La première avec laquelle j'ouvre le livre, qui s'appelle Alix. Elle présente des symptômes, elle présente des tremblements, elle a une partie de son corps qui parfois se paralyse, et ça dure pendant des années. Et à chaque fois qu'elle va aux urgences, elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout prise au sérieux. En fait, les médecins la renvoient chez elle, et ça, c'est le moment où elle arrive à arriver aux urgences, puisque sinon, quand elle appelle, ils ne répondent même pas. Et en fait, ça dure des années et des années. Et puis au bout d'un moment, son médecin généraliste lui dit, en fait, ça ne sert à rien que vous continuez d'aller aux urgences. Dans votre dossier, il y a marqué que vous êtes hystérique et donc vous ne serez jamais prise en charge.
Vous racontez aussi un autre exemple, celui, le calvaire d'Emma, dont le mari a utilisé l'internement psychiatrique pour la discréditer et obtenir la garde des enfants. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé et comment c'est possible ?
Et oui, j'ouvre aussi le livre avec plein d'extraits de procès-verbaux d'hommes qui se retrouvent dans la justice et qui vont justifier les raisons pour lesquelles ils ont été violents avec leur femme. Alors, ils ne diront jamais qu'ils ont été violents, mais comme je le disais, ils peuvent faire passer ça pour la légitime défense. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, c'est comment ces hommes se sont tous mis d'accord pour sortir toujours le même argument, ils ont compris qu'en fait, ce serait le meilleur moyen de se déresponsabiliser et de pouvoir continuer d'être violent. Et Emma, en l'occurrence, elle a vécu des années et des années d'emprise, de contrôle coercitif, de violences sexuelles. Elle a été, comme beaucoup de femmes victimes de violences conjugales, elle a été isolée. Donc, elle a perdu son emploi, elle a perdu tout lien avec sa famille. Donc, à la fin, il n'y avait plus du tout de témoins pour voir ce qu'elle vivait. Et par ailleurs, très souvent, les gens ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur d'un foyer, puisque de l'extérieur, tout avait l'air super. Monsieur faisait une belle carrière, ils avaient une belle maison, ils avaient des enfants, etc. Et elle vivait l'enfer. Et puis, au fur et à mesure, en fait, il a complètement sapé sa confiance en elle, jusqu'à la faire douter de sa santé mentale. Il l'a manipulée constamment, psychologiquement.
C'est le gaslighting, on avait fait une émission.
Oui, c'est ça, c'est le gaslighting, absolument.
J'aime bien placer des mots que je connais.
Et voilà, donc effectivement, il jouait avec ses perceptions, il pouvait lui dire quelque chose et lui dire le contraire ensuite. Donc ce truc de donner des injonctions contradictoires, ça fait partie de cette stratégie. Puisque l'idée du gaslighting, c'est que la personne, non seulement se sente folle, mais semble folle aussi aux yeux de l'entourage. Et donc il met tout ça en place jusqu'à ce qu'elle est effectivement à la fin dans un état psychologique déplorable, ce qui semble normal, elle avait perdu une vingtaine de kilos et tout. Et elle se retrouve à l'hôpital psychiatrique, emmenée par son mari. Et puis là, ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, c'est que quand elle arrive à l'hôpital psychiatrique, les médecins ne comprennent pas du tout ce qui se passe et trouvent ça, en fait, chouette que ce mari soit là pour l'accompagner, lui rendre visite et tout, et lui disent « Vous avez beaucoup de chance, il y en a très peu des maris etc. comme ça. » Et voilà, en fait, on se rend compte qu'on peut être tous un peu dupes de cette fiction de l'hystérie, comme pour Britney Spears, par exemple, on a fermé les yeux collectivement.
Et vous, ce mot hystérique, est-ce que vous l'entendez encore? Est-ce qu'il vous choque? Est-ce que vous connaissez son histoire? Quentin est allé vous poser la question dans la rue.
Est-ce que la rue est hystérique? Après tout, elle peut aussi l'être, après une victoire de Coupe du Monde, en se mobilisant, qu'importe. Mais là, je vous avoue qu'en ce moment, c'est plutôt calme dans la rue. Essayons notre mot du jour avec ce monsieur. Le bonnet, les gants, la buée sur les lunettes, bonjour.
Hystérique, c'est lié à la femme, le mot hystérique. Oui, moi j'ai des exemples de femmes hystériques, mais oui, dans mon entourage, oui, j'en ai vu, oui.
Bon, je comprends qu'on parle de disputes conjugales, mais concrètement, on parle de quoi?
Hystérie, c'est les nanas qui crient dans tous les sens et à propos de tout. Par exemple, on va aborder un sujet, je ne sais pas quoi, la soupe était froide, je dis n'importe quoi, hein, c'est pour prendre l'exemple. Et ça va partir dans ci et ça. Et d'abord, tu m'as jamais aimé, et ton grand-père, c'est un connard, et les enfants, ceci et les enfants, et la bagnole est en panne, mais en hurlant, alors qu'on n'est même plus dans le sujet de base qui était la soupe est froide. Voilà.
Ouais. Mais lui.
Et c'est quand même la faute de la femme si la soupe est froide.
En plus,
quand même, il faut rappeler ce qui est quand même.
C'est certainement elle qui l'a préparé.
Oui.
Un peu tiède. Mais lui, est-ce qu'il peut être hystérique? Parce que je veux dire, ça doit bien arriver à lui aussi de sortir de ses gonds.
Mais c'est pas du tout pareil, je veux dire. Je peux m'énerver, mais c'est pas... ça prend pas les mêmes dimensions, on va dire. C'est plus un terme qui s'applique aux femmes, oui. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente. Je veux dire, le terme hystérique, je crois que ça vient d'utérus. Enfin, en tout cas, c'est lié... au départ, c'est lié à la femme, je veux dire. Le terme a été créé à partir de considérations féminines.
À partir de considérations féminines. Je change de trottoir et je tombe sur Sophie, cheveux courts et grisonnants, 58 ans.
Hystérique.
Ça vous fait sourire?
Oui, ça me fait sourire parce que malheureusement, c'est comme ça qu'on traite un peu les femmes dès qu'elles osent dire ce qu'elles pensent.
Nous parlons du mot en lui-même, de son apparition comme un diagnostic, de son utilisation au fil des siècles.
Ah. Je pense qu'il y a un petit côté religieux qui doit aller avec, c'est-à-dire que la femme, elle est là pour donner la vie. Et puis pour s'occuper des enfants. Et puis donc dès qu'elle voulait finalement sortir de ce schéma qui était un schéma très 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 patriarcal et qui reste encore. Et donc dès qu'elle montait en fait sur ses grands chevaux pour affirmer on va dire sa liberté, et ben elle passait pour une hystérique. Elle voulait juste dire qu'elle était libre, qu'elle voulait être libre surtout. En fait, dès qu'elle voulait s'affirmer, c'était une hystérique.
On parle aussi de son utilisation aujourd'hui. On entend parfois brandir le mot hystérique envers les féministes.
En revanche, c'est peut-être à elle de freiner un petit peu, puisque je pense que c'est à cause de l'outrance féministe d'aujourd'hui qu'on arrive à une outrance masculiniste. Et puis, des femmes qui peuvent s'affirmer sans pour autant gueuler.
Mais vous leur reprochez ce qu'on reprochait, ce qu'on s'est dit tout à l'heure?
Pardon? Non, on peut s'affirmer sans avoir à gueuler.
On est dans une époque extrême. Si on ne fait pas des choses extrêmes, on n'est pas entendu. Je suis persuadée de ça.
C'est peut-être. Mais les hystériques dont on parlait au début, enfin au 18e ou 19e siècle, c'était pas tant. Il faut qu'elles aient mal au ventre et qu'elles osent le dire pour être traitées d'hystériques.
Je vois parfois que le terme peut entraîner quelques contradictions, quelques conflits générationnels, peut-être aussi également. Ma nouvelle rencontre part bosser dans un café. Elle attrape au vol le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Hystérique ? J'espère que c'est pas parce que vous seriez un petit peu problème avec les femmes. Pour moi, hystérique, c'est un mot qui est un peu problématique, donc Moi, aujourd'hui, je suis hystérique, personnellement, mais parce qu'Harry Styles a sorti un morceau. C'est pour ça, c'est tout.
Parce que qui ?
Harry Styles a sorti une nouvelle musique. Donc là, on pourrait dire que je suis hystérique si on était un gros macho, parce qu'Harry Styles revient et je suis trop contente.
Alors ça, c'est vrai, on peut brandir ce mot pour les fans, spécialement pour les femmes fans. Est-ce que c'est un héritage pesant du fanatisme du groupe de filles qui pleurait devant chez Claude François ou pour les concerts de ce qui fut aussi la Bruelmania ?
La Beatlesmania aussi, ouais. Ce genre de truc. Je pense que oui, on a un peu hérité de ça. Donc maintenant, j'espère qu'on arrive à en parler autrement et juste dire qu'on peut être fan de n'importe qui et juste être hyper content.
Oui.
Ah mais oui, ça fait trop du bien et je conseille à tout le monde d'aller crier dans une foule son préféré. C'est trop bien, c'est trop agréable. Moi, j'adore.
Ma dernière rencontre, c'est Gaïa, 23 ans, cheveux bleus sur doudoune verte fluo. Dernière réaction sur...
Hystérique. Ah, j'adore. J'adore ce mot.
Pourquoi ?
J'adore le mot hystérique. Je trouve qu'il est souvent connoté hyper négativement et que c'est toujours accroché à un peu de la folie et tout, alors qu'en fait, genre juste être en mode hystérique, complètement folle et partir dans tous les sens, c'est trop bien.
Vous l'êtes parfois ?
Ouais, je suis plutôt agacée. Je crie, mais je peux être hystérique de manière joyeuse aussi. En fait, c'est opposé, ça peut être opposé.
C'est intéressant parce que ce mot-là, effectivement, j'avais pas pensé.
Ouais.
Peut avoir aussi une connotation positive.
Ouais, t'es, on va dire, ah, t'es hystérique, c'est, ah, ouais, c'est de la folie, quoi.
Ça, vous le dites parfois entre potes ?
Entre copines, ouais. Ouais. Enfin, c'est trop bien, t'es hystérique, t'es à fond, t'es au max de ton potentiel de joie, t'as l'air un peu folle, mais parce que ça t'a mis trop bonne humeur, un truc, et du coup, tu pars en folie, quoi.
Et au fond, peut-être que le vrai problème n'est pas l'hystérie, mais la peur qu'elle provoque, parce que ce mot, longtemps brandi pour faire taire, pourrait bien aujourd'hui être retourné comme un étendard, une hystérie qui ne serait plus une insulte, mais une hystérie collective, une manière d'être vivant, excessif, vibrant. Bref, une hystérie non pas à soigner, mais à revendiquer.
Merci Quentin. Pauline Chanu, on a été un peu cueillis par le premier témoignage de Quentin,
oui.
Cet homme sorti d'un autre âge, visiblement, qui ça montre aussi à quel point ce mot hystérie et toutes les histoires d'hystérie ont infusé, si bien qu'aujourd'hui, il y a encore des gens, alors apparemment c'est plutôt des gens peut-être un peu plus âgés, qui estiment, qui relient déjà au fait que ça vient du mot utérus et qui ne questionnent même pas le fait que c'est peut-être des fadaises tout ça.
Bah, c'est vraiment hyper intéressant ce qu'on a entendu là dans ce premier témoignage, parce qu'en réalité, même si ça nous fait sourire, en réalité, c'est extrêmement problématique. Enfin, si le problème, c'est que la soupe est froide, c'est qu'on est vraiment au 19e siècle. Parce que, en fait, quand j'ai regardé dans les archives, dans les travaux des historiennes aussi qui ont suivi l'époque, c'est exactement ce que disaient les hommes pour faire interner leurs femmes. Ils disaient le repas est pas bon, la soupe est froide, elle s'occupe mal des enfants. Et en fait, c'est aussi ce qu'on retrouve dans l'histoire d'Emma dont on parlait juste avant, donc victime de violence conjugale, de contrôle coercitif et son ex-mari et agresseur n'arrêtait pas de commenter aussi la manière dont elle faisait à manger. Donc ça peut paraître un peu anecdotique et nous faire sourire, mais en réalité c'est extrêmement grave.
Et ça dit beaucoup de choses qui se servent de la soupe. Alors lui, sans prendre sa défense, mais lui dit que c'est l'échange qui suit le reproche, en gros, qui fait que sa compagne ou sa femme devienne hystérique. Il dit que lui peut s'énerver sans devenir hystérique, sans que ça prenne des proportions. Qu'est-ce que ça dit, ça ?
Oui, je suis d'accord avec vous, mais néanmoins, immédiatement, il relie l'hystérie au foyer. Ouais. Donc, on voit bien, c'est ce qu'on disait au départ, qu'il y a une volonté de contrôler et quand même d'enfermer les femmes. En tout cas, ça a l'air de transparaître dans ce qu'il en dit, ouais.
Est-ce que c'est un terme aujourd'hui qui est repris, on l'a entendu un peu dans le micro-trottoir, mais par les milieux masculinistes ?
Oui, par les milieux masculinistes, bien sûr. Enfin, justement, j'ai regardé des vidéos masculinistes. Effectivement, les mecs brandissent complètement cet argument de l'hystérie. Ils vont représenter des femmes qui hurlent la bouche ouverte dans des mèmes sur Internet. Par exemple, dans l'affaire Amber Heard, Johnny Depp, Amber Heard a été non seulement taxée d'hystérique par les médias, par les masculinistes sur Internet, mais elle a même été diagnostiquée en fait histrionique et borderline par l'experte psychologue appelé au procès. Et avant
Johnny,
ça, par l'avocate. Voilà, lui, il est très bien. Ouais.
Très bien, Johnny.
Et par l'avocate de Johnny Depp. Donc en fait, on voit comment c'est très perméable en fait ces discours masculinistes et la justice qui est encore extrêmement patriarcale. En fait, cet argument peut passer du domaine public à la justice.
Je reviens sur le témoignage de Sophie, qui, elle, dit qu'elle voit le problème et que c'est un énorme problème encore dans notre société. Mais quand j'aborde le thème des féministes d'aujourd'hui, elle dit oui, mais il faudrait le faire sans gueuler. Ouais. Du coup, c'est un peu contradictoire. J'ai l'impression qu'il y a aussi, parfois, aussi un conflit générationnel dans ce truc-là.
Bah, ce qui est terrible, c'est que c'est pas parce que c'est une femme ou parce qu'on est des femmes qu'on n'intègre pas la misogynie et que même on retourne pas contre soi cet argument de l'hystérie. Je pense que l'hystérie, ça sert, c'est tellement efficace que même nous, en tant que femmes, on s'auto-contrôle par peur d'avoir l'air hystérique. Mais ce qu'il faudrait dire à Sophie, c'est que quand on regarde l'histoire longue des révolutions féministes, enfin que ce soit d'Olympe de Gouges à Louise Michel, en passant par les suffragettes et tant d'autres, en fait, toutes ont été taxées d'hystérique, voire même certaines ont été envoyées à l'asile. Donc, en fait, chaque mouvement progressiste, lorsqu'il est mené par une femme, est soupçonné d'hystérie, et on voit que c'est la même chose en Iran. J'en parle un moment, parce que là, du coup, je pense à l'Iran en ce moment. Les Iraniennes, en ce moment, ces derniers mois, quand elles manifestaient, elles n'étaient plus envoyées en prison, mais à l'asile. En fait, c'est vraiment ce tout de la folie féminine, parcourt les époques et les aires géographiques du monde entier, quoi.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Il y a décidément beaucoup de mystères autour du corps féminin. Tenez, jusqu'à sa première fois à l'arrière du Renault Master de Martine, la déniaiseuse d'Alençon, Quentin croyait que Syphilis était une muse grecque. 10 jours plus tard, il découvrait la triste vérité. Manon, un défibrillateur.
Entre ça et mes histoires d'amour avec les bovins, on est bien.
Avec les bovins. Ah oui,
ça s'appelle comme ça, les vaches.
C'est vrai. Mais on en parlera plus un petit peu à Rouen lors de notre délocalisation.
Oui, disons ça.
Vendredi prochain.
On revient sur vos terres. Manon, un défibrillateur se tient à votre disposition dans le couloir. Nous jouons avec les mythes et légendes autour du corps féminin. Un quiz qui démarre aujourd'hui par une croisière sur le Nil. À la découverte, non pas de l'Égypte moderne que Claude François a si bien décrite dans cette chanson qui figure encore dans les top écoutes Spotify de Quentin en 2025,
c'est
mais de l'Égypte ancienne.
Je pas Claude François.
L'Égypte ancienne. Nous sommes 25 siècles avant l'invention de Clear Blue. Ma question est simple, comment fonctionnait ce test de grossesse égyptien? Il fallait uriner sur des grains d'orge et de blé pour voir s'ils germaient ou pas. Il fallait s'introduire une gousse d'ail dans le vagin le soir, le lendemain matin si l'odeur avait changé, c'est que vous étiez enceinte. Ou il fallait placer un scorpion sur son ventre, s'il ne piquait pas, vous étiez enceinte, sinon c'est que vous étiez morte.
Mais non, mais ça va pas, Quentin.
Quentin,
mais on va vraiment, pas se placer un scorpion.
On a certes beaucoup méprisé les femmes dans le passé, mais au point d'inventer un test à base de scorpion, c'est une bonne réponse de Manon Mariani. Évidemment, les égyptiennes n'avaient pas Clear Blue, mais elles avaient l'orge et le blé.
Vous ne l'avez pas fait.
Petit pipi dessus, et hop, si les graines poussaient, c'était un signe de grossesse indiquant le développement de la vie, un test 100% bio qui donnait aussi avec une grande précision le sexe de l'enfant. Si les graines d'orge germaient en premier, c'était un garçon. Si c'était du blé, c'était une fille. Maintenant, la prochaine fois vous avez un doute, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous filez au Franprix, vous demandez des Weetabix. Mais l'Antiquité nous réserve bien d'autres surprises, notamment en ce qui concerne les croyances autour des règles. En effet, d'après vous, selon les médecins de l'Antiquité, quel super pouvoir avaient les femmes pendant leurs règles? Elles pouvaient faire mourir les insectes nuisibles, faire pousser le blé 2 fois plus vite, ou changer la couleur des fleurs.
Je vais rester sur le blé.
Vous restez sur le blé?
Je me dis peut-être.
Vous avez raté la première question. C'est une bonne réponse de Manon. Une fois de plus. Oui, réponse A. 23 siècles avant.
On parle des femmes.
Manon,
tous les jours.
23 siècles avant Manon, qui elle a le pouvoir de faire mourir les insectes et d'ailleurs toute forme de vie en chantant. Les docteurs de l'Antiquité avaient déjà repéré l'incroyable pouvoir du corps féminin. Selon Pline l'Ancien, si une femme qui a ses règles se déshabille et se promène dans un champ, les chenilles, les vers et les coléoptères tombent des épis de maïs. Une croyance qui a perduré pendant des centaines d'années, puisqu'en Anjou, au 19e siècle, on faisait encore traverser des champs aux femmes pendant leurs règles. Mais détruire les nuisibles, simplement en se baladant à poil, n'est pas le seul pouvoir inouï des femmes pendant leurs règles. Une autre croyance a traversé les âges, des Romains jusqu'au 20e siècle dans le Limousin. Cette croyance concerne les abeilles. D'après vous, Manon, Quentin, quel pouvoir ont les femmes sur les abeilles pendant leurs règles? Elles peuvent rendre la piqûre de l'abeille mortelle, empoisonner le miel en passant près d'une ruche, ou décimer un essaim d'abeilles d'un simple regard.
B.
Bah oui.
Non mais c'est n'importe quoi.
Le reste ne marche pas. Non.
Le reste ne fonctionne pas, évidemment, Quentin. C'est pourquoi la bonne réponse était la réponse C, les amis.
Quoi?
Du regard. Quel dommage, Quentin, pour ce brave Polo qui avait dû vous aspirer le dard, que Manon n'était pas dans les parages quand vous avez été piqué par un frelon. Il aurait suffi qu'elle lui lance un regard accablant, enfin dans le cas de Manon, qu'elle lui lance un regard tout court, le mode par défaut du regard de Manon étant déjà accablant, et hop, Polo n'aurait pas été obligé de courir se nettoyer la bouche à l'extrême. Autre temps, autre croyance rigolote concernant les femmes, cette fois les femmes enceintes. Et là, je peux vous dire que dans l'Antiquité, on en racontait de belles au sujet de celles qui avaient, comme le dit encore en 2026 Cyril Lacarrière, un polichinelle dans le tiroir. D'après vous, Manon, pourquoi au 5e siècle avant Jésus-Christ, vous auriez détesté voir vos copines enceintes? Parce qu'elles vous auraient forcément saoulé avec la question « Alors toi, c'est pour quand ?» Parce que les femmes enceintes transforment le vin en vinaigre? Ou parce que vous auriez été obligé de boire seul, ce qui ne vous réussit jamais?
Les trois.
Les trois.
B, peut-être, non, le vin, vinaigre, peut-être. Les trois.
Bah, les trois, A, relou, c'est...
Moi, c'est B.
C'est B. Vous vous tenez à cette réponse B.
Le vin,
c'est
vinaigre.
C'est une bonne réponse.
Mais c'est les trois, réfléchissez.
Non, c'est pas les trois, Manon. Ah, oui, c'est les trois.
Bah oui, c'est les trois.
Ah, Manon a raison, c'est elle qui peut décider, puisque c'est elle dont je parle. Bah, effectivement, bonne réponse de Manon, tant pis pour vous, Quentin. Oui.
Ah, très bien. Vous avez noté quelle... C'était quoi la vraie réponse que vous avez...
C'était la réponse B. Encore une trouvaille de Pline l'Ancien, selon lequel donc non seulement les femmes devaient éviter de boire du vin, mais elles avaient la faculté de le transformer en vinaigre.
C'est pas la bonne réponse, de toute façon.
Si on pouvait écouter les sons, ça m'arrangerait par rapport aux vins qui suivent, merci. Ça fait peur, Manon, mais de là à hurler « Touche pas à mon Bordeaux, salope !» comme vous l'avez fait l'autre jour à votre amie Julia, qui avait failli en perdre les eaux, non, nous ne sommes plus en moins 60 qu'en compte avant Jésus-Christ. Victoire de Manon Mariani.
Merci.
Oh là là. Zoom aujourd'hui sur celle qu'on appelait des hystériques. Alors Manon, vous ne buvez plus de vin blanc. Vous ne buvez plus de Bordeaux.
Mais je suis une nouvelle femme, Mathieu.
Qu'est-ce que vous buvez encore?
Non, mais du brouillé, un petit chinon.
Du brouillé, un petit chinon avec
modération. Cyril m'a dit une femme chiante dans les ordres, voilà.
C'est pas vrai?
Si, je le balance.
Cyril. Sur l'émission de l'hystérie, c'est parfait.
C'est Cyril que vous avez eu tout, dans le micro-trottoir, en fait.
Non.
Zoom aujourd'hui sur celle qu'on appelait des hystériques, notion galvaudée, on l'a bien compris maintenant avec notre invitée, la journaliste Pauline Chanu, qui publie « Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes ?» C'est aux éditions de La Découverte. Pourquoi vous parlez de maison hantée?
Je parle de maison hantée parce que ce qui m'a intriguée aussi dans cette histoire, c'est la porosité qu'il y a entre l'histoire de la possession, l'histoire des sorcières et l'histoire de l'hystérie. Pour donner un exemple, en fait, il y a un moment au XIXe siècle où en fait, les médecins et l'Église se déchirent autour de certains cas de femmes. Ils ne savent pas si elles sont atteintes d'hystérie ou si elles sont possédées.
Possédées par le diable, mais oui.
Et parce qu'en fait, certaines, enfin, parfois, pour... Charcot, par exemple, pour le citer, puisque c'est quand même le médecin le plus connu du 19e siècle dont on parlait tout à l'heure, là, à la Salpêtrière, pour déceler l'hystérie d'une femme, il prenait une aiguille et il appuyait dans certaines parties de son corps pour voir où étaient les zones hystérogènes. Les zones hystérogènes, c'est les zones insensibles. Et donc, alors, très souvent, il se trouve que c'était près des ovaires et près des seins. Et en fait, on se rend compte que c'est la même chose que faisaient les inquisiteurs pour les sorcières. Ils plantaient une aiguille dans les chairs des sorcières. Et si la sorcière était insensible... Ça voulait dire qu'elle était sorcière. Enfin, si la femme était insensible, ça voulait dire qu'elle était sorcière. En fait, on se rend compte aujourd'hui, c'est ça qui est aussi fascinant dans cette histoire, c'est que
terrifiant, là, oui.
Alix, dont je parlais au début, donc qui était en réalité épileptique, eh bien, elle avait des zones de son corps insensibles. Donc peut-être que ces hystériques et ces sorcières, c'était quand même très très possible, étaient en réalité des femmes malades d'épilepsie et d'autres maladies.
Un mot de Freud, ce bon vieux Freud, peut-être. Quel rôle a-t-il joué par rapport à l'hystérie, à cette notion d'hystérie?
Bah déjà, le rôle qu'il joue encore aujourd'hui, c'est que la psychanalyse, pour le coup, utilise l'hystérie, revendique l'usage du terme névrose hystérique. Mm-hmm. Donc ça, on lui doit. Et Freud, en fait...
En la réservant aux femmes aussi?
Non, alors ils disent que c'est pas les femmes. C'est difficile à vérifier, puisqu'en fait, les psychanalystes ne donnent pas de diagnostic. On ne sait pas à qui les donne, c'est pareil, on n'a pas de statistiques. Mm-hmm. Mais bon, quand j'ai lu des ouvrages et entendu des psychanalystes parler de l'hystérie, ils la féminisaient toujours, et donc on se rend compte qu'elle est très marquée. Mais donc, pour revenir à votre question, mm-hmm. Freud, au début du XXe siècle, fin XIXe, début du XXe siècle, il va dans un premier temps écouter des femmes malades, les mêmes femmes, un peu le même profil de femmes qui étaient à la Salpêtrière de Charcot. Et dans un premier temps, il va dire, en fait, ces femmes ont toutes vécu des traumatismes, et c'est ça qui fait qu'elles ont ces zones d'insensibilité, ces tremblements, c'est le fait de devenir aveugle du jour au lendemain, etc. Et en fait, il va se rétracter, il va changer d'avis, et il va dire qu'en fait, non, c'était pas du traumatisme, elles n'avaient pas vécu de véritable violence conjugale ou sexuelle, c'est pas possible, parce que sinon elles seraient trop nombreuses, donc en réalité, c'est du fantasme, et elles seraient malades de leur fantasme. Et donc ça, c'est un point très important pour la psychanalyse, et les psychanalystes aujourd'hui ont du mal à se débarrasser de cette histoire, de cet héritage, et ça a donné le complexe d'Oedipe, par exemple, qui aujourd'hui est très décrié, surtout quand on connaît les chiffres de l'inceste.
Tout au long de votre livre, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on voyage dans le temps, vous dressez des parallèles entre hier et aujourd'hui, on l'entend. Vous parlez aussi de Bertrand Cantat, de Jonathan Daval, par exemple. Eux aussi ont parlé d'hystérie pour expliquer leur féminicide.
Ouais, en fait, Bertrand Cantat, quand il va se justifier de ce qui s'est passé, il va vraiment faire passer le féminicide de Marie Trintignant pour une situation, comme je le disais tout à l'heure, de légitime défense. C'est-à-dire qu'elle aurait été, il le disait, elle aurait été en furie, elle serait sortie de ses gonds, elle aurait commencé à le frapper, etc. Il n'aurait fait que se défendre. Et en fait,
ce qui a été repris partout dans l'opinion publique à l'époque. Ouais.
C'est ça, en fait, que lui le dise. Bon, bah, tous les agresseurs le disent, mais en réalité, c'est que ça a été repris par sa défense. Et puis, j'ai écouté des interviews de l'époque où les journalistes journalistes vont voir les ex-compagnons de Marie Trintignant en leur demandant ouais. Mais est-ce qu'elle était vraiment hystérique? Et donc c'est ça qui est débattu. Enfin, une femme est morte, elle a été voilà, massacrée, et les journalistes se demandent si oui ou non elle était véritablement hystérique, et ça l'a énormément marquée, puisqu'ensuite sur les plateaux télé on parlait de son alcoolisme supposé, de ses différents compagnons, etc. Ouais. Et puis, donc on voit bien qu'il a tenté de la faire passer pour folle, il a fait ça aussi avec... Enfin, il y a une enquête en cours, là, aujourd'hui, pour...
Avec son ex-femme. Ça,
ouais, son ex-femme, Christina Radi. Aujourd'hui, il y a une enquête qui est ouverte pour suicide forcé. Et puis, donc, vous parliez de Jonathan Daval. Effectivement, lorsqu'il tue Alexia Fouillot, il va changer 10 fois de version. Mais ce qui est bien, c'est que dans toutes ces versions, il va revenir à l'hystérie. Donc, elle aurait eu des problèmes de fertilité. Donc, elle aurait pris des médicaments qui auraient une influence, qui aurait fait qu'elle faisait des crises. Et donc, ce soir-là, elle aurait été en crise. Et ça aussi, c'est repris par son avocat. Donc c'est ça qui est vraiment fou dans cette histoire de l'hystérie, c'est à quel point en fait, les institutions, après, reprennent ces arguments.
Il est grand temps de sortir de la maison hantée. Comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes? C'est signé Pauline Chanu. Et c'est aux éditions de La Découverte. Vous écoutez Inter, il est 16h45. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Un livre aujourd'hui, Mon vrai nom est Elisabeth, il est signé Adèle Lyon. Il est sorti l'année dernière et il s'inspire de la vie de l'autrice, plus particulièrement de celle de son arrière-grand-mère. C'est son premier livre qu'elle a tiré de sa thèse. C'est à la fois une enquête familiale, un récit documentaire et une plongée dans l'histoire de la psychiatrie française. Elisabeth est donc l'arrière-grand-mère d'Adèle Lyon. Dans la famille, son nom a disparu, on l'a décrit comme folle, elle a été diagnostiquée schizophrène et internée. Mais Adèle Lyon ne connaît rien de plus, comme s'il fallait renier son existence, qu'elle était tout simplement taboue. On évoque un internement, mais le sujet est clos. Mais Adèle Lyon refuse ce récit trop simple. Elle va se mettre en quête d'informations sur la vie de cette Elisabeth qu'elle n'a pas connue. Elle lit les dossiers médicaux, les archives administratives, les lettres. Et ce qu'elle découvre n'est pas seulement l'histoire d'une femme internée, c'est celle d'un système dont on a parlé pendant l'émission. Pendant des décennies, la psychiatrie a fait d'elle le portrait d'une femme hystérique, une femme trop émotive, trop instable, trop sexuelle, trop triste, trop rebelle. L'hystérie devient alors un diagnostic fourre-tout, un mot pour dire qu'une femme ne rentre pas dans le cadre attendu. Dans les années 50, époque où Elisabeth est internée, une femme peut être enfermée pour n'importe quelle raison. Ça peut être parce qu'elle fait une dépression, parce qu'elle refuse son rôle d'épouse, parce qu'elle exprime une colère. Celui qui a le mot final reste son mari. C'est lui qui décide si oui ou non il va signer les papiers pour un internement. Le livre montre comment le corps et la parole des femmes ont été médicalisés et surtout contrôlés. L'hôpital psychiatrique devient parfois un outil de mise à l'écart social. Et surtout, elle pose une question. Combien de femmes ont été enfermées, non pas parce qu'elles étaient dangereuses, mais parce qu'elles dérangeaient? Le livre résonne évidemment fortement aujourd'hui parce que la figure de l'hystérique n'a pas totalement disparu, elle a juste changé de nom. On parle d'hypersensibilité, d'instabilité émotionnelle, de troubles, de salcone aussi. Le but est toujours le même, minimiser la parole féminine.
Merci Manon. Pauline Chanu, d'un mot, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, en France, techniquement, une femme peut se retrouver internée contre son gré juste par la volonté de son mari et la complicité d'un médecin.
Oui, ce que je racontais aussi, c'est que en l'occurrence, moi, les femmes que j'ai rencontrées finissaient par avoir des troubles dépressifs, ou je ne sais pas comment les qualifier, mais c'est-à-dire que quand on vit des violences conjugales, du gaslighting pendant des années,
très souvent,
en fait, il y a un moment où on finit par se sentir pas très bien. Donc, si les médecins ne sont pas formés à reconnaître ces symptômes, en fait, qui sont en réalité des symptômes de traumatisme, c'est ça toute l'histoire de l'hystérie, c'est que, et ça vraiment, j'ai regardé dans toutes les archives, que ce soit, on parlait tout à l'heure des femmes possédées, de la salpêtrière au 19e siècle, en fait, à chaque fois, toutes ces femmes parlaient de viol, de violences sexuelles, du père, du mari, etc. Et donc, c'est passionnant de voir que c'est vraiment toujours la même histoire, et qu'aujourd'hui, par exemple, on parlait du trouble histrionique, et on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le trouble de la personnalité borderline qui interroge, et on voit qu'il y a une grande, grande prévalence de femmes victimes de violences sexuelles. Jusqu'à 80% des personnes souffrant de troubles de la personnalité borderline auraient été victimes de violences sexuelles. Donc je pense qu'il est grand temps de renverser en fait l'hystérie, de se poser la question de ce qui s'est passé avant.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Lui, il a été très choqué par votre livre, Pauline Chenu. Pour lui, Britney Spears est bel et bien hystérique. Plutôt que de chouiner, elle devrait, selon lui, se repentir, car aucune créature de Dieu n'a le droit de se raser les cheveux sans offenser le Seigneur. Pour Pierre, Britney Spears doit rapidement se confesser, et il a une adresse pour elle. L'abbé Chibrard, Notre-Dame du Rosaire, Lourdes. En attendant, Pierre Courade, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit sur les hystériques en une minute chrono, s'il vous plaît.
Je dirais jamais ça de Britney. Les deux seuls hystériques que je connaisse, c'est Quentin et Jessé, un défilé Louis-Gabriel Nouchi, ou pourtant la liqueur vieille ne manquait pas. Je plaisante évidemment, on a passé une heure à expliquer que le terme d'hystérique était impropre et ne s'appliquait jamais aux hommes. On l'a bien compris, hein, grâce à l'enquête de notre invitée, la journaliste Pauline Chenu. Elle nous a expliqué qu'hystérie venait du terme grec qui désigne utérus. Ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais c'est au 19e siècle que l'hystérie a été théorisée. Théorisée, mais sans jamais qu'une définition scientifique ne soit donnée. Ce qui est pratique, hein, l'idée pseudo-médicale est en fait d'estimer que tous les maux d'une femme, même minimes, sont de l'hystérie. La finalité est de les réduire au silence, de les remettre dans le cadre, et en l'occurrence à la maison. L'hystérie est donc considérée comme une maladie sans en être une véritablement. Elle est née de la misogynie ambiante. Et malheureusement, comme la misogynie existe toujours, elle réinvente l'hystérie à notre époque. Notre invité raconte comment Britney Spears, notre idole à tous, a aussi été accusée d'être hystérique pour être internée. Mais même nous, on a fermé les yeux, comme des professionnels de santé qui parlent encore aujourd'hui d'hystérie, ou des avocats qui utilisent cette fiction pour justifier les coups qu'un mari peut porter à sa femme. Finalement, à cause de l'invention de l'hystérie, une femme battue sera toujours coupable avant d'être victime.
Merci beaucoup Pierre Courade. Et c'est au tour à présent de Jessé de disserter sur le sujet de l'hystérie. Je crois que ce thème vous a beaucoup inspiré.
Ah Mathieu, oui. Mathieu. Oui. Calme-toi, doucement. Ah, moi, je te parle pas quand t'es dans cet état, en fait. T'es complètement hystérique, là. Hein. N'importe quoi. Vous avez vu, je ferais bien. Hein, le mec toxique. Oui. T'es fier de moi, Cyril?
Oui,
non, merci, j'ai appris du meilleur. Et c'est marrant, ça m'a fait tout bizarre de te traiter d'hystérique, Mathieu.
Et parce qu'on parle pas comme ça à son boss.
Ah non, rien à voir. Mais parce que t'es un garçon. On traite rarement les hommes d'hystériques. Non, alors que bon, toute personne qui a déjà vu Pierre marcher dans un couloir, hein, sait que le pet au casque est pas loin. Non, c'est pas normal d'avoir l'air toujours aussi pressé, Pierre, hein, quand personne t'attend jamais nulle part. Franchement, en lisant la doc, j'ai appris... Bah oui. En lisant
c'est
la doc,
une
oui,
ça,
oui, c'est une imitation de toi, tout le monde a compris. En lisant la doc, j'ai appris qu'hystérique venait du grec hystéra, qui signifie hé les gars, venez, on va discréditer les meufs. C'est fou, hein, ces langues anciennes. Comme un seul mot, tu peux résumer tout un système. Hein, d'ailleurs, en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ, au même moment où naissait en Gaule Cyril, Hippocrate, le père de la médecine et créateur de la série, j'imagine, pensait que si une femme n'avait pas assez de relations sexuelles, son utérus remontait dans son corps jusqu'à atteindre le cerveau et la rendre folle. Content, du coup, de ne pas avoir eu Hippocrate en médecin traitant. Docteur, j'ai grave mal à une dent. Oui, montrez-moi. Oui, c'est parce que vous ne sucez pas assez, je pense. Docteur, je pense que c'est vraiment une carie. Une quoi? Allez, merci docteur, je vais aller retourner jouer aux osselets devant l'acropole. Vous avez vu, je fais des petites scénettes.
Oui, c'est fou, des scénettes comme ça à l'acropole.
On sort du cadre, c'est Mathieu, incroyable. On sort du cadre. Non mais pardon, mais c'est quand même dingo qu'à une époque, on ait pu penser que baiser, ne pas baiser, rendait les femmes folles. Hein, perso, moi, c'est quand je leur fais l'amour que je les rends dingues. Pardon, je citais Mathieu Noël en antenne.
Bon,
jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt les mecs que ça rend dingo de pas baiser. Hein, je veux dire, on a quand même été jusqu'à inventer une expression, j'ai les couilles qui vont exploser. Mais c'est nous, les dingos. Ça va pas, j'ai jamais entendu aucune de mes potes dire « Meuf, JPP, j'ai le clito énorme. Faut que quelqu'un me le frotte. Hein, » Non, hein, à part Manon. Puis alors, cette théorie de l'utérus monstre qui se déplace dans le corps pour aller bouffer le cerveau. Bah, pardon, hein, mais j'ai l'impression que si les femmes avaient la bête du Gévaudan au fond de la Schneck, ça se saurait. Hein, veut dire, ça ferait longtemps que Depardieu se serait calmé. Hein, puis Habitant ferait pas un nouveau spectacle. Hein, il collerait des petites affichettes pour retrouver sa teub. Parce qu'on parle toujours des hystériques, mais jamais des causes qui les ont amenés à être en colère. Enfin, vous pensez que Britney est née comme ça en fait? Non, c'est Justin qui lui a fait du sale. Voilà, et tout le système patriarcal. Free Britney, voilà. Non, mais il y a plein d'exemples comme ça. Tiens, Manon, tiens, bah oui, si Cyril la poussait pas à bout, elle ressemblerait pas à ça. Voilà, mais on est avec toi, free Manon. Oh, on pathologise, avec plaisir, ma puce, on pathologise la colère des femmes, c'est ça qu'on fait. Mais si nous, les mecs, il nous arrivait le quart de ce qui leur arrive, mais c'est pas hystérique qu'on serait, hein. Y aurait un nouveau mot dans le dictionnaire. médicaux, hein, puis un traitement remboursé par la Sécu. Je finirai, Olympe de Gouges, je finirai en vous citant Pauline Chanu. Ah. Derrière chaque folle, il y a surtout une femme engagée qui a voulu dénoncer, écrire ou créer.
Merci GC pour cette belle chute. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Et je rappelle que vous serez à Paris du 3 juin au Théâtre des Mathurins. Enfin, pas du, à partir du 3 juin au Théâtre des Mathurins. Ça. Très beau théâtre. Et aussi en tournée partout en France. Le 6 mars à Caen, le 4 mars à Zurich. Tiens, vous.
Oui,
à Zurich.
C'est votre première fois en Suisse,
oui,
je sais.
Trouver un mari riche.
Calmez-vous. Toutes les infos sur icigc.com. Merci Pauline Chanu d'être venue nous raconter la longue et difficile histoire des hystériques. On a compris que cette histoire n'était malheureusement pas terminée. On n'a pas pu évoquer toutes les ramifications de ce qu'on appelle l'hystérie. Mais pour aller plus loin, il y a évidemment votre livre que je cite, Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes. C'est dans la collection Cahiers libres des éditions de La Découverte. Zoom, zoom, zen.